Quatrième partie. Sadie et le général. Chapitre 14. La soirée d'hommage à Miss Mimi eut lieu le jour de la rentrée scolaire. Si l'on peut juger de la réussite d'un événement au nombre de mouchoirs mouillés, notre diaporama fit un carton. Je suis persuadé que cette séance eut un effet cathartique pour nos jeunes lycéens, et je pense que Miss Mimi elle-même l'aurait appréciée. Sous leur armure, les gens sarcastiques sont en guimauve, m'avait-elle confié un jour, moi y compris. Les profs tinrent le coup durant la plus grande partie des témoignages. Ce fut Mike qui les émut le plus, avec sa récitation calme et sincère du proverbe 31, celui qui parle de la femme vertueuse. Puis le diaporama, accompagné de la bande-son tirée de West Side Story, finit par les achever. L'entraîneur Borman se distingua tout particulièrement. D'authentiques larmes coulant sur ses grosses joues rouges, des sanglots déchirants sourdant de son torse massif, le gourou du football de Denholm m'évoqua irrésistiblement Baby Huey, le gros caneton, tartine pour les intimes, deuxième personnage de dessin animé préféré des enfants de l'époque. Alors que nous nous tenions debout tous les deux à côté du grand écran où défilaient les photos de Miss Mimi, j'en fis la remarque à Sadie. Elle aussi pleurait, mais le fou rire l'emportant, elle dut courir se réfugier dans les coulisses. À l'abri dans la pénombre, me lançant un regard de reproche, elle agita un doigt menaçant dans ma direction. Je le méritais. Miss Mimi aurait-elle encore pensé que Sadie et moi nous entendions comme larrons en foire ? Sans doute. Comme pièce de théâtre pour le premier trimestre, je choisis 12 hommes en colère, en omettant quasi délibérément d'informer la Samuel French Company que j'avais l'intention de renommer notre version « Le jury » afin de pouvoir intégrer des filles dans la distribution. J'avais prévu de faire passer les auditions à la fin octobre et de commencer les répétitions le 13 novembre, après le dernier match de football de la saison des Lions. Je voyais bien Vince Knowles dans le rôle du juré numéro 8, l'homme seul contre tous incarné par Henry Fonda dans le film de Sidney Lumet, et Mike Coslow dans celui du plus récalcitrant, le juré numéro 3, que je considérais comme le meilleur de la pièce. Mais j'avais commencé à me concentrer sur un drame plus important. Un drame qui, par comparaison, ferait ressembler l'affaire Frank Dunning à un sketch de vaudeville dérisoire. Appelons ce drame-là « Jake et Lee à Dallas ». Si les choses se passaient comme prévu, ce serait une tragédie en un acte. Je devais me préparer à entrer en scène le moment venu, ce qui impliquait de commencer mes préparatifs suffisamment à l'avance. Le 6 octobre, les Lions de Denholm remportaient leur cinquième match d'une saison sans défaite, qui serait ultimement dédié à Vince Knowles, le jeune homme qui avait incarné George dans « Des souris et des hommes », et qui, hélas, n'aurait pas la chance de figurer dans la distribution du jury de George Amberson. Mais de cela, j'aurai l'occasion de reparler plus tard. Comme le lundi suivant était férié, Columbus Day, c'était le début d'un long week-end de 3 jours. Je suis parti pour Dallas le lundi. La plupart des commerces étaient ouverts, et j'ai effectué mon premier arrêt chez l'un des prêteurs sur gage de Greenville Avenue. J'ai dit au petit homme qui me reçut derrière son comptoir que je voulais acheter son alliance La Meilleure Marché. Je suis ressorti avec un anneau d'or, ça ressemblait du moins à de l'or, à 8 $ à l'annulaire de la main gauche. Puis j'ai continué ma route jusqu'au centre-ville et un magasin de Lower Main Street que j'avais repéré dans les pages jaunes de Dallas, chez Silent Mike, Satellite Electronics. Là, je fus accueilli par un petit homme soigné portant des lunettes à monture d'écaille et arborant un badge au message étrangement futuriste sur son gilet. « Faites confiance à personne. »« C'est vous, Silent Mike ?»«
Oui. » »«
Et vous êtes vraiment silencieux ?» Il sourit.
« Tout dépend de qui écoute. » »«
Supposons qu'il n'y ait pas d'oreille indiscrète. » Et je lui expliquai ce que je voulais. J'aurais pu faire l'économie de mes $8, car il se foutait éperdument de ma prétendue épouse adultère. C'était l'équipement que je recherchais qui intéressait le propriétaire de Satellite Electronics. Sur ce sujet, c'était plutôt Mike le bavard.
« Monsieur, ils ont peut-être des trucs comme ça sur la planète d'où vous venez, mais on n'a pas encore ça par chez nous, ah, je vous assure. »
Ces mots réveillèrent en moi le souvenir de Miss Mimi, me comparant aux visiteurs extraterrestres du jour où la Terre s'arrêta.
« Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »
« Vous voulez un petit appareil d'écoute sans fil ? Très bien. J'en ai quelques-uns dans la vitrine, juste là, à votre gauche. On appelle ça des radios à transistors. J'ai les marques américaines Motorola et General Electric, mais ce sont les japonaises les meilleures. »
Il avança la lèvre inférieure et souffla sur une mèche de cheveux pour la chasser de son front.
« Ça nous fout pas un coup de pied dans le cul, ça ? Il y a 15 ans, on leur réduit deux villes en cendres radioactives. Mais vous croyez que ça les aurait fait crever ? Que non ! Ils planquent dans leurs trous jusqu'à ce que la poussière retombe. Et ensuite, les voilà qui ressortent en rampant, armés de circuits imprimés et de fer à souder à la place de leur mitrailleuse Nambu. En 1985, ils seront les maîtres du monde. Le monde dans lequel je vis, en tout cas.
Donc, vous ne pouvez rien faire pour moi.
Comment ça ? Vous rigolez ? Bien sûr que je peux. Silent Mike McEachern se fait toujours un devoir de satisfaire les exigences électroniques d'un client. Mais il vous en coûtera.
Je suis prêt à payer une certaine somme. Cela pourrait me faire économiser bien davantage quand je traînerai cette salope infidèle au tribunal pour le divorce.
Ha ha ! Attendez ici une minute pendant que je vais vous chercher quelque chose dans l'arrière-boutique. Et retournez-moi cet écriteau sur la porte côté fermée, voulez-vous ? Je m'en vais vous montrer quelque chose qui n'est sans doute pas... Enfin, peut-être que c'est légal, mais comment savoir ? Vous croyez peut-être que Silent Mike McEachern a fait son droit ?
Non, je ne crois pas.
Mon guide dans l'univers électronique des années 60 reparut avec un gadget de forme étrange dans une main et une petite boîte en carton dans l'autre. Les mentions imprimées sur la boîte étaient en caractère japonais. Le gadget, monté sur un cylindre en plastique noir, ressemblait à un petit godemiché pour fée à peine nubile. Du cylindre, qui avait à peu près le diamètre d'une pièce de 25 cents pour une hauteur d'une dizaine de centimètres, sortait un bouquet de fils électriques. Le type l'a posé sur le comptoir.
« Je vous présente l'Echo, fabriqué ici même dans notre bonne ville de D, fils. Si quelqu'un peut battre les petits nippons à leur propre jeu, c'est bien nous. D'ici les années 70, l'électronique aura remplacé la banque à Dallas. Souvenez-vous bien de ce que je vous dis. »
Il se signa, pointa un doigt vers le ciel et ajouta
« Que Dieu bénisse le Texas. »
J'ai soulevé le gadget. Et en quoi consiste exactement l'Echo, quand il est à la maison, les deux pieds posés sur le pouf ?
C'est ce que vous trouverez de plus approchant du genre de dispositif d'écoute que vous m'avez décrit. Il est petit car il ne contient ni tube à vide, ni pile. Il fonctionne sur le courant alternatif domestique ordinaire.
Il se branche au mur ?
Bien sûr, pourquoi pas ? Votre femme et son amant le verront et diront « Oh, comme c'est mignon! Quelqu'un a mis la piole sur écoute en notre absence. Payons-nous une bonne partie de jambes en l'air bien bruyantes et déballons toutes nos histoires privées. »
C'était un geek pur et dur. Mais la patience est une vertu. Et il me fallait ce qu'il me fallait.
Comment s'en sert-on alors?
Il a tapoté le cylindre.
Cette partie s'insère à l'intérieur d'un pied de lampe. Pas un lampadaire, hein, sauf si vous tenez à enregistrer les trottinements des souris dans les plinthes, vous pigez. Une lampe de table, pour que le bidule se trouve à hauteur des gens quand il parle.
Il caressa les fils.
Les rouges et les jaunes se connectent au cordon de la lampe, le cordon de la lampe se branche dans le mur. Le micro reste éteint jusqu'à ce que quelqu'un allume la lampe. Et quand on l'allume, bingo, vous êtes dans la course.
Le micro est ici ?
Ouais. Et pour de la fabrication américaine, il est pas mauvais. Là, vous voyez ces deux autres fils, le bleu et le vert ?
Ouais. Il ouvrit la boîte en carton imprimé de caractères japonais et en sortit un magnétophone à bande à peine plus grand que les paquets de Winston de Sadie.
Ces fils se raccordent à cet appareil. L'unité de base va dans la lampe, le magnéto dans un tiroir de bureau, pourquoi pas sous la lingerie de votre chair étendre. Ou alors, vous percez un petit trou dans le mur et vous le mettez dans le placard.
Le magnétophone aussi est alimenté par le cordon de la lampe ?
Naturellement.
Pourrais-je avoir deux de ces échos ?
Oh, je peux même vous en avoir quatre si vous voulez. Mais il faudra compter une semaine.
Deux me suffiront. Combien ?
Ah, des trucs comme ça ne sont pas donnés. Pour deux, ça pourrait aller jusqu'à 140. Ah, c'est le mieux que je puisse faire. Et il faudrait que ce soit en liquide.
Son accent de regret suggérait que nous nous étions offert un joli petit rêve high-tech, mais que le joli rêve était presque terminé. Combien de plus si je vous demande de faire l'installation ? Voyant sa mine alarmée, je me suis empressé de préciser.
Non, je ne vous demande pas de jouer les agents secrets. Juste de me fixer les deux micros dans deux lampes et d'y raccorder le magnétophone à bande.
Vous pourriez me faire ça ?
Bien sûr que je peux, monsieur...
Disons, monsieur Intel. John Intel. Ses yeux se mirent à luire, comme j'imaginais que luiraient les yeux de Howard Hunt lorsqu'il s'aviserait pour la première fois du défi représenté par l'hôtel Watergate.
Pas mal, comme nom.
Merci. Et j'aimerais bien disposer d'options variées pour les fils. Quelque chose de court, au cas où j'ai la possibilité de placer l'enregistreur à proximité, et de plus long si j'ai besoin de le cacher dans un placard ou de l'autre côté du mur.
Ouais, je peux faire ça. Mais je vous recommande pas plus de 3 mètres de fil, sans quoi le son tourne à la gadoue. Et plus vous utilisez de fil, plus il y a de chances que quelqu'un le trouve.
Même un prof d'anglais pouvait comprendre ça. Combien pour le tout ?
180 ?
Je voyais qu'il était prêt à marchander, mais je n'en avais ni le temps ni l'envie. J'ai posé 5 billets de 20 sur le comptoir en disant « Vous aurez le reste à la livraison, avec un test préalable pour s'assurer du bon fonctionnement, d'accord ?»«
Ouais, ça me va. »
Ah, autre chose, procurez-vous des lampes d'occasion ? Genre vieillot.
Vieillot ?
Ouais, comme si on les avait dégotés dans un vide-garage ou une brocante pour un quart de dollar chacune. Quand on a dirigé un certain nombre de mises en scène, Des souris et des hommes était ma 5e, en comptant celle que j'avais à mon actif au lycée de Lisbonne, on en sait un peu sur la décoration de plateau. La dernière chose que je voulais, c'était que quelqu'un aille voler une lampe trafiquée dans un appartement semi-meublé. Un instant, l'homme parut perplexe, puis un sourire entendu éclaira son visage.
« Je vois. Souci de réalisme. »
« C'est ça le plan, Stan. » Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait demi-tour, appuyé mes deux avant-bras sur la vitrine au radio à transistor et j'ai regardé le mec dans les yeux. Je ne pourrais pas jurer qu'il ait vu dans les miens l'homme qui avait tué Frank Dunning. Mais je ne pourrais pas affirmer le contraire non plus. Vous ne parlez de ça à personne, compris ?
Non, bien sûr que non.
Il a fait glisser deux doigts sur ses lèvres comme pour boucler une fermeture éclair. C'est ça, ai-je confirmé.
Pour quand ? Donnez-moi quelques jours.
Je repasse lundi prochain. Vous fermez à quelle heure ?
5.
J'ai calculé la distance entre Jody et Dallas et dit « $20 de plus si vous restez ouvert jusqu'à 7 heures. Je ne peux pas arriver. Ça ira pour vous ?»«
Ouais, ça ira. »«
Bien. Que tout soit prêt quand j'arrive. »«
Ce sera prêt. »« Autre chose pour votre service ?»«
Ouais. Pourquoi diable vous appelle-t-on Silent Mike ?» J'espérais qu'il me dirait «
Parce que je sais garder un secret. »
Mais il n'en a rien fait.
Quand j'étais môme, Je croyais que ce chant de Noël parlait de moi. Ça m'est resté.
Je n'ai pas insisté, mais à mi-chemin de ma voiture, j'ai soudain pigé et je me suis mis à rire.
Silent Mike, Holy Mike.
Des fois, il n'y a pas à dire, on vit dans un monde insolite.